Ok.
Salut, c'est Ketevan. Voilà, c'était ça ma...
Ketevan ?
Ma fan d'intro. Bienvenue à La Grange, saison 2, épisode 3. La Grange, esprit critique, esprit cynique. Comment ça va, Eric ? Esprit cynique, du coup.
Ah, c'est moi l'esprit cynique de la bande. Oui, ça va très bien, je te remercie. Comme je te disais, j'ai fait un Drunk January, qui consiste à boire tous les week-ends et finir à 7-8 heures du matin.
Et t'avais pas fait un Drunk 2018 et 2019 ? Et voilà, comme d'habitude, on est encore sponsorisé par Bledina, Bébé Neuf et Baby Confort. Donc, des petits bruits de bébé random ont été ajoutés, bien sûr, tout ça, et la magie du montage.
Il n'est pas du tout random, ce bébé.
Et aujourd'hui, on va parler encore une fois méthode scientifique. On est de plus en plus sérieux et de moins en moins marrant. C'est pas merveilleux, ça?
Ça vous donne envie de pas nous écouter, hein?
Alors, comme j'ai déjà expliqué, c'est hyper complexe d'expliquer les méthodes scientifiques, mais grossièrement, les deux mamelles de la science sont la réfutabilité ou la falsifiabilité et la reproductibilité. Alors, Eric a de grands yeux ouverts depuis que j'ai dit mamelle, donc...
c'est la reproductibilité.
Voilà, on va lancer le jingle le temps que
tu te calmes. Belle. La Grange Podcast.
Esprit critique.
Esprit cynique.
Deuxième prise, du coup. Qu'est-ce que la réfutabilité ? Une hypothèse réfutable ou falsifiable, s'il est possible de prouver qu'elle est fausse, tout simplement. Alors, quand on m'a expliqué ça la première fois, ça m'a paru pourri. Je me disais instinctivement qu'une hypothèse qu'on ne peut pas prouver comme étant fausse était forcément meilleure qu'une hypothèse falsifiable. Mais en fait, la réfutabilité, c'est vraiment cool. C'est même, selon le boss du game, Karl Popper, un des critères permettant de distinguer une science et une non-science ou une pseudo-science. Un exemple facile, c'est tous les chiens en quatre pattes. Ben, ça, c'est réfutable. On peut trouver des chiens à trois pattes. Un autre exemple, Eric est immunisé au virus du VIH.
Non, mais tu vois.
Là aussi, c'est falsifiable. Il suffit qu'il l'attrape et notre affirmation est réfutée. D'ailleurs, merci d'avoir tenté l'expérience, Rico.
Voilà. Je ne l'ai pas eu, la preuve que...
Non, mais c'est pas le résultat qui compte, c'est qu'on puisse le prouver ou non. Quoi. À l'inverse, l'affirmation « certains ovnis sont des vaisseaux extraterrestres », c'est irréfutable. On ne peut pas prouver le contraire. Alors notez bien, comme j'ai dit, que le fait que l'affirmation soit réfutable ou pas ne dit rien sur le fait qu'elle soit vraie ou fausse, c'est juste un critère, selon Popper, qui permet de distinguer les sciences des pseudo-sciences. Alors, vous vous en doutez, la notion de réfutabilité scientifique est plus complexe que ça, selon Popper, elle intervient à trois niveaux. Je vais vous la faire courte, car Eric est déjà dans le coma. Le premier niveau, c'est le niveau logique. Si une théorie est réfutable, on doit pouvoir formuler au moins un énoncé qui montrerait qu'elle est fausse, comme on l'a fait plus haut. Le deuxième niveau est empirique. On doit pouvoir expérimenter la théorie. C'est pour ça que l'hypothèse de l'origine extraterrestre aux ovnis est irréfutable. Il ne peut pas y avoir de protocole expérimental qui infirmerait cette supposition. Et la troisième condition, c'est le niveau méthodologique. L'expérience doit pouvoir être reproduite par d'autres personnes afin notamment d'éviter les biais de subjectivité. Donc, comme d'habitude, pour les plus curieux, pour la crème de la crème, j'ai mis des délicieuses sources en... Description, j'en profite juste pour...
C'est sûr que personne ne le fait.
...introduire la notion d'hypothèse ad hoc. Une hypothèse ad hoc, c'est une hypothèse arbitraire ajoutée à une théorie afin d'empêcher de l'avoir réfutée. C'est un argument fallacieux et ça, c'est très vilain. Je vais terminer cette rubrique avec la traduction d'un texte de Carl Sagan, un astrophysicien qui a fait beaucoup de vulgarisation, qui illustre très très bien les notions de réfutabilité et d'hypothèse ad hoc.
Je pense que ça va être passionnant. Je suis sûr qu'il y a des dragons, des elfes et tout.
Je pense que vous allez comprendre en l'écoutant. Un dragon crachant du feu vit dans mon garage. Supposez que je vous affirme cela sérieusement. Vous voudriez certainement le vérifier, le voir de vos propres yeux.
Carrément.
Il y a eu d'innombrables histoires de dragons à travers les siècles, mais jamais de preuves quelle aubaine. Montrez-le-moi, dites-vous, je vous emmène à mon garage, vous regardez à l'intérieur et vous voyez une échelle, des pots de peinture vides, un vieux tricycle, mais pas de dragon. Où est le dragon, demandez-vous? Ah ben, il est juste là, je réponds en remuant vaguement le bras. J'ai oublié de préciser, il s'agit d'un dragon invisible. Donc vous me proposez de mettre de la farine sur le sol du garage pour choper les empreintes de pas du dragon. Bonne idée, mais en fait, ce dragon, il flotte dans les airs. Bon, alors, si on utilisait un capteur infrarouge pour détecter le feu qui est invisible. Alors, bonne idée, mais en fait, le feu invisible, il dégage pas de chaleur.
Alors, on dirait un enfant.
Pourquoi ne pas utiliser un spray de peinture pour rendre le dragon invisible? Bonne idée. Mais en fait, le dragon, il est immatériel et la peinture n'adhère pas au dragon. Et ainsi de suite. Pour chaque test que vous proposez, je trouve une manière d'expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas. Quelle est la différence entre un dragon flottant dans les airs invisible et immatériel crachant du feu sans chaleur et pas de dragon du tout? S'il n'y a aucun moyen de vérifier mon affirmation, ni aucune expérimentation concevable ne pouvant l'infirmer, que cela signifie-t-il de dire que mon dragon existe ? Votre impuissance à invalider mon hypothèse n'est pas la même chose que de prouver qu'elle est vraie. Voilà, donc le texte sera en description. C'est tiré d'un livre.
Si ça vous a pas suffi de l'écouter, n'hésitez pas à aller le relire.
La traduction du texte, pardon, c'est tiré d'un livre en anglais écrit par Carl Sagan et sa femme.
Qui s'appelle ?
Qui est beaucoup moins connu.
Madame Sagan.
Non, même pas. Non, même pas. Bien tenté, mais c'est pas ça. Qui est beaucoup moins connu que Feu son mari. Que Feu son mari qui est mouru bien trop tôt.
C'est super triste.
Voilà, j'aurais bien fait un truc beaucoup plus long, mais voilà, je sens plus le pouls d'Eric, donc on va devoir passer à sa rubrique parce qu'il est.
À ma rubrique déjà ?
Il est à l'agonie, ouais. Voilà. Jingle ?
Jingle ! Ah, déjà ? Désolé, j'avance un peu.
C'est
les gens
droit.
Payent pour nous écouter ou pas ?
Ah non, c'est libre de droit.
Ah, c'est
vrai. Ouais, on va devenir des stars à notre insu.
Ok.
Ouais.
Ça serait gênant.
Ouais. Vas-y. Notre exposé de CE2.
Alors, pour mon exposé de CE2, André m'a donné Rudolf Steiner.
Alors, c'est bâtard parce que c'est archi vague comme sujet.
Genre. Ouais, c'est... Donc,
mal joué, comme on dit.
Donc j'ai commencé cet exposé en mettant que ma vie est mieux que celle de Rudolf Steiner. Je dis ça juste parce qu'il était austro-hongrois et qu'il est né en 1861. De base, je préfère être moi. Bon, par contre, il était bien plus intelligent que moi, car il a commencé à lire Kant à 16 ans, ainsi que ses copains philosophes Fichte, Hegel, Schelling et Goethe. C'est d'ailleurs en étudiant ce dernier qu'il annonce...
Goethe. En fait, t'as copié-collé un truc en anglais.
Non, je sais pas, j'ai marqué « et », mais je sais pas pourquoi j'ai dit « and Goethe ».
Ok.
Tu vois, je passe bilingue. Mon temps. Bilingue. C'est d'ailleurs en étudiant ce dernier qu'il amorce une réflexion sur une science des phénomènes vivants, au tout début, puis sur une science des phénomènes de l'esprit. Donc on va expliquer plus tard ce que c'est. C'est sur cette base philosophique qu'il va développer un courant ésotérique qui subsiste encore de nos jours, qu'on appelle l'anthroposophie. Car comme pour la puisette ou la tirette à cornichons, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'inventeur ni le pourquoi du comment d'un tel nom, mais bien de savoir quelle implication ce courant de pensée a et comment il fonctionne. Tu savais qu'on disait une puisette à cornichons ?
Non, j'ai pas compris l'analogie.
C'est ça ? Bah en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'objet. Pas l'inventeur.
Ah, je croyais que c'était les implications de la tirette. Ok.
Les implications de la tirette à cornichon, c'est un mieux vivre le cornichon.
Si tu manges des cornichons, ok.
Voilà. Vous pouvez cependant vous référer à l'ouvrage principal de Steiner, La philosophie de la liberté, si à la fin de cet exposé vous souhaitez en savoir
attends,
plus.
Tu me critiques quand je mets des sources en description, mais ces ouvrages, ils sont imbitables.
Ce qui fatalement ne manquera pas d'arriver, vu comment j'ai torché ça avec les pieds. Là où Steiner diffère d'Adri, qui, rappelons-le, ne jure que par les jugements analytiques et la zététique dont nous avons parlé dans un épisode précédent, qui est contrairement à Adri, je vous laisse aller voir les épisodes précédents plutôt que de faire une redite, c'est par la prise en compte de jugements synthétiques. Alors, de ce que j'ai compris, alors là ça va être imbitable ce paragraphe, mais bon, la pensée doit devenir plus intense et plus contemplative pour appréhender l'unité de l'organisme vivant. Alors, cette unité de l'organisme vivant, elle n'est pas visible extérieurement et elle doit être appréhendée par des sciences de l'esprit. Donc ça, c'était au tout début de sa pensée. Donc ces sciences de l'esprit, c'est la psychologie, l'ethnologie et l'histoire. L'histoire, lui, considère ça comme la science spirituelle la plus élevée. Cette approche de la nature de la pensée lui fait dire que ce n'est pas le cerveau physique qui pense, mais l'être humain qui utilise son cerveau physique pour penser. Ce qui change tout, car notre pensée peut se construire via d'air. Selon lui, des perceptions spirituelles ou suprasensorielles qui ne nécessitent pas d'être démontrées, donc qui ne font pas appel à la science. Il appelle cela un pensée pur. Ce pensée pur, entre guillemets...
Pourquoi un ?
Moi, j'ai marqué un pensée pur, entre guillemets, ou une pensée pure.
Ouais, je pense...
Mais c'était marqué ER, c'était pensée pure.
Ah, pardon, d'accord, c'est le verbe, autant pour moi.
Ouais, c'est une sorte de... C'est un concept pensée pure, quoi. Ce pensée pur doit être développé, il n'est pas inné. Il permet de se dégager des constructions et représentations déjà présentes dans notre esprit. On peut alors produire ce que Steiner appelle des imaginations morales, qui, elles, permettent d'accomplir des actes libres. Donc, via tes sensations suprasensorielles et tes perceptions spirituelles, tu peux avoir des vérités qui apparaissent et construire,
ça, c'est pratique.
Et construire des vérités pures. Voilà. Des imaginations morales et qui t'amènent à faire des actes libres qui vont créer. Comme vous l'avez certainement compris, l'anthroposophisme nie la science et le matérialisme de celle-ci, tandis que les connaissances scientifiques le lui rendent bien, puisque la majorité des affirmations de l'anthroposophie sont elles-mêmes réfutées par la science. Mais dis-nous, Eric, comment cette pseudo-science philosophique se traduit-elle dans la vie, vous entends-je dire derrière vos oreillettes Bluetooth? Eh bien, nous avons quelques exemples qui montrent que attendre que la vérité nous soit donnée par nos corps spirituels en adéquation avec notre karma n'est pas une très bonne idée. J'en veux pour exemple l'épidémie de rougeole qui a démarré en Alsace en 2015.
Ouh, beau gosse.
Par une communauté anthroposophique, car comme toute bonne secte, pour ne pas interférer avec le karma de ces gens, ils se sont opposés au vaccin.
Et ils ont des écoles spécifiques.
Ouais. Et notre dérivé de la pensée de Steiner est l'agriculture en biodynamie. Alors la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans Les Ignorants d'Étienne Davodo, où l'un des deux protagonistes est un vigneron très bien noté au Guide Parker. Le Guide Parker, là, qui est la référence internationale des guides de vin. Étienne Davodo, un dessinateur très connu. Un dessinateur de BD très connu. Et ils se font se croiser. Lui apprend... Comment se crée un livre, il l'emmène dans les salons de BD, lui fait rencontrer les gens du monde de la BD. Et à côté de ça, lui, il apprend tout le travail de la vigne, comment faire un vin. Et ce type-là travaille en biodynamie. Et là où dans cette BD, la coupe des pieds de vigne se fait en fonction des cycles lunaires, par exemple. Et il pulvérise sur ses vignes une préparation à base de bouse de corne et de silice. Une préparation en plus qui est diluée en dose homéopathique à 0,0001%, donc vraiment ridicule. Et on les voit sur 2-3 pages de BD, ils vont pulvériser ça sur les vignes et le gars est convaincu que ça rend son vin meilleur.
Alors normalement il y a même des incantations, je ne sais pas s'il en
parle. Alors non, il ne parle pas d'incantation, mais il parle de pulvérisation de silice. Et le gars dit oui, il faut vraiment respecter la dose homéopathique. Parce que si t'en mets ne serait-ce qu'un petit peu trop, tu peux cramer tes plants de vigne. Et bien sûr, le dessinateur de BD, il croit pas du tout, mais vu que c'est son pote, bah, il le fait avec lui. Et il lui dit, écoute, moi je fais 98 sur 100 au Guide Parker, ce qui est genre une note exceptionnelle pour un vin. Il lui dit, oui, mais moi voilà, c'est avec ça que je fais mon super vin. Donc je vous laisse vous renseigner sur la liste des préparations farfelues qui existent en biodynamie. L'une de mes préférées étant la préparation 500 qui consiste à enterrer de la bouse de vache dans une corne de vache pendant l'hiver, puis aller la chercher et la diluer dans de l'eau comme on l'a fait à dose homéopathique pareil et pulvériser ça sur le sol pour l'enrichir. Adrien étant friand de méta-analyse, il y en a une de 2013 qui conclut qu'à ce jour il n'y a pas d'effet clair, cohérent ou concluant des préparations biodynamiques sur les systèmes à gestion biologique.
Donc
en fait, ça ne marche pas. Voilà, en plus de renforcer la conviction de l'utilisation de la zététique dans vos choix et croyances, cette chronique m'aura quand même donné envie de créer ma secte, puisque ça marche super bien en France.
Ouais.
C'est incroyable, je ne pensais pas que l'anthroposophie était un courant de pensée qui touche un peu à tout. Il a fait des conférences sur un peu tout, Steiner, et donc il a créé
des écoles. Steiner-Waldorf, qui a été défendu par Renaud notamment.
Voilà, et donc c'est très enfantin, c'est assez beau parce que évidemment t'as envie d'y croire que si tu mets de la bouse de vache dans de la corne de vache.
Si avec ça, tu vois, ça serait un peu anodin, mais en fait le truc est vraiment vicieux. Il y a un mec actuellement qui s'appelle de mémoire Grégoire Perra qui est en procès contre eux, c'est un ancien prof.
Ouais. Enfin,
en fait il a fait toute sa scolarité dans les écoles Steiner-Waldorf. Il a été prof, il a fait vraiment partie du mouvement parce que c'est un mouvement qui s'étend, qui est hyper tentaculaire.
Ouais,
en fait, hein.
Bah oui, c'est ça, il touche à tout le gars, il a eu des idées sur tout.
Il y a notamment la médecine anthroposophique qui est hyper dangereuse du coup, il possède des hôpitaux, tout ça. Et,
ils ont des hôpitaux ?
Ils ont des hôpitaux, ils ont la marque Velleda.
Oui, Velleda, oui, carrément. J'ai vu et je me suis renseigné d'ailleurs sur le site de Velleda pour.
T'as vu le truc, ouais, bio. Il y a une vidéo assez ridicule, ouais.
Pour la bio de Steiner, je suis allé au tout début sur.
Ben, ils ont une vidéo où tu les vois préparer des trucs où tu as un nez qui agite un bocal parce que tu comprends agiter un truc. Voilà. Bref,
c'est incroyable hein, qu'il y ait autant de gens. Enfin, tu me diras, c'est le concept d'une secte, hein, c'est de vous croire, mais. Enfin, croire sans base réelle. Mais là, c'est vraiment impressionnant parce que c'est.
Ils sont quand même relativement discrets. Moi, j'en ai entendu parler que depuis très récemment.
Ouais.
Et quand même hyper étendu.
Et tu disais qu'il y avait même des politiques qui.
Complètement, ouais. Et. C'est cool parce que Tu vois, je suis pas très théorie du complot, mais c'est impossible qu'il y ait zéro complot. Donc ouais, là, ça fait un complot qui me semble plausible, tu vois. Donc,
mais ce qui est triste, c'est que tu disais que ça touchait l'extrême gauche, quoi.
Tout le monde.
Tout le monde.
C'est, ouais, tout le monde. En gros, c'est genre. Tu peux être agent double, agent double infiltré dans le FN ou dans ce que tu veux, mais ton truc de base, c'est d'être
anthroposophe, quoi. Waouh!
Ouais, mais vraiment, les témoignages de Grégoire Perra, je crois qu'il a fait un truc sur la tronche en biais et sur Méta de choc. C'est édifiant. C'est flippant, en fait. C'est flippant.
Ouais, mais enfin, moi, ce qui me fait flipper, c'est que des gens y croient. Sérieusement, parce que moi, la première fois que j'ai vu ça à la télé, je me suis marré.
Mais vu que c'est une école et qu'on te l'apprend dès que t'es gamin, tu vois. Ah, c'est une école qui est. Enfin, c'est une des branches, c'est des écoles qui sont un peu à la mode, tu sais, un peu bobo bio, tout ça. Tu fous ton gamin sans trop connaître et puis il lui retourne le cerveau, quoi.
Waouh.
Ouais, c'est.
D'accord, c'est hyper choquant. Donc, moi, j'en ai parlé hier soir au bar, parce que j'avais commencé un peu à bosser le sujet avant ce matin, quand même, faut pas déconner. Et il se trouve que en agriculture, biodynamie autour de Rennes, et il y a plein de gens qui en font, parce que j'en parlais avec Pierre.
Dans un bar à Rennes,
Non, j'en parlais avec Pierre, qui m'a dit moi, ils commencent à bosser avec des types qui font leur propre jardin et tout, qui veulent vivre en autosuffisance. Et ils sont beaucoup à croire dans la biodynamie.
Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Normalement, il y a des incantations magiques, l'esprit de la lune. Enfin, c'est assez.
Mais en plus, je suis sûr que ça part d'une base pas débile. À chaque fois que les mecs disent oui, les cycles lunaires et tout, écoute, ça fait bouger des océans entiers, la lune. Donc, forcément, tu peux te dire.
Oui, non, mais je comprends le.
Tu vois, donc les gens se disent, il y a forcément un pouvoir, vu que ça fait bouger les océans, vu que. Donc, je me dis, c'est.
Ça te paraît pas aberrant,
Ça me paraît pas aberrant que les gens accrochent. Mais après, le truc d'aller enterrer quelque chose sans jamais vérifier si ça marche.
C'est pas le truc le plus ouf. Moi, c'est les incantations, l'appel à l'esprit lune, l'esprit. Je crois qu'il y a une croyance que tous les insectes partagent. Genre, tous les vers de terre ont un esprit vers de terre en commun. Enfin, c'est vraiment.
Ah ouais.
Ouais, vraiment le.
Et ils retournent assez. Ils sont assez animalistes, en fait. Assez,
Ouais, et. Ouais, je crois que tous les.
De ce que j'ai vu, ils disaient par exemple que le foie du cerf. Ou l'estomac du cerf, mais il l'utilise aussi dans des décoctions, il renvoie directement à l'alignement des planètes et tout. Et j'étais là.
Ça me semble logique.
Waouh! En fait, il y a un type qui a vraiment étudié les philosophes, qui t'a sorti une bouillie de philosophie sur laquelle il s'est appuyé. Tout le monde s'est dit, il cite Kant, il cite Goethe.
Allez!
Le mec est calé, quoi. Et derrière, il a dit, non, mais attendez, le monde, il fonctionne comme on a envie qu'il fonctionne, quoi. Mais je trouve ça assez génial. De l'autre, je trouve ça hyper dangereux parce qu'on vit avec ces gens. Mais je trouve ça vraiment marrant de se dire, attends, le monde, il fonctionne comme il fonctionne, comme j'ai envie qu'il fonctionne. Donc, ils vont frotter deux brins d'herbe et puis ça va faire du feu. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment rigolo. Ils agissent vraiment comme des enfants, quoi. Comme moi, quand je construisais des trucs dans mon jardin.
Un peu plus dangereux que.
Non, un peu plus dangereux parce que c'est des adultes, quoi.
Ouais. Eh bien, écoute, bien belle rubrique. Je pensais pas que tu serais. Parce que c'est. Autant pour moi, je t'ai vraiment donné un sujet hyper vaste.
C'était ce matin, là, quand j'ai commencé à ouvrir tous les onglets, là. Parce que j'avais ouvert que la page Wikipédia de Rudolf Steiner. Au début, je me suis dit, ça va être. Et puis après, je me suis dit, mais ça parle de tellement de trucs, c'est vaste. Hein. Il a touché à tout, en fait. Il a fait
des
conférences.
Alors que toi, tu m'as donné un sujet sympa.
Moi, je t'ai donné un sujet. On passe à ma rubrique. Méga simple, bien sûr, à ton exposé de CO2. Vas-y, Adrie.
Vas-y, fais un jingle à la bouche.
Poum, pam, 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 poum.
Vous commencez à le connaître, Eric est un gros bâtard. Il m'a donné un sujet aussi vaste que le tour de taille de Feu Maïté, la vie politique de Victor Hugo.
Elle n'est pas morte, Maïté.
No way, sérieux.
Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est pas morte, Maïté.
Pendant que tu vérifies, je continue ma rubrique. Alors, j'ai appelé ma rubrique de Marina Méluche de Facho à Coco, l'incroyable voyage de Victor Hugo.
De quoi
De Marina Méluche, de Facho à Coco, l'incroyable voyage de Victor Hugo. Alors, Victor Hugo est surtout
elle est
connu...
tellement pas morte, Maïté, elle a 81 ans. Elle crevarde.
R.I.P. R.I.P. aussi. Victor Hugo est surtout connu comme écrivain, mais c'était également un homme politique français. Et pour info, son vrai blaze, c'est Victor Marie Hugo. Et tout de suite, le respect redescend d'un cran.
Non, tout le monde s'appelait Machin Marie à l'époque.
Alors son parcours politique, ça c'est vraiment un truc réfutable.
C'est vrai,
il nous trouve un état de naissance avec quelqu'un qui n'est pas un mari dans son.
Non mais pas tout le monde. Je donne à mon avis 60% de la population s'appelait Adolfo Marie, Jean-Marie.
Adolfo Marie, pire prénom 2019. Alors, son parcours politique est assez simple. C'est une ligne qui part de la droite bien à droite et qui veut de la gauche bien à gauche. Il est passé de la droite royaliste à son enfance à la gauche républicaine à sa mort. Son parcours politique pardon, lui a valu d'être taxé d'opportunisme. Alors, pour ma part, je trouve ça plutôt ça, en fait. C'est normal de changer d'opinion quand on est confronté à de nouvelles informations. Je vais même citer une réponse qu'il a faite concernant justement son accusation d'opportunisme politique. Et il faut dire qu'il maîtrisait quand même pas mal la punchline, l'enfoiré. Mauvais éloge d'un homme que de dire « son opinion politique n'a pas varié depuis 40 ans ». C'est dire que pour lui, il n'y a ni expérience de chaque jour, ni réflexion, ni repli de la pensée sur les faits.
Waouh.
C'est louer une eau d'être stagnante, un arbre d'être mort. C'est préférer l'huître à l'aigle. Bim ! Ouais, ça calme.
Ça pèse quand même d'être un poète ouais, quand t'es un politique.
Ça calme. Donc, retour en arrière au temps du son, qui vrille la tête. Victor Marie naît à Besançon en 1802. Son père est un général de Napoléon Bonaparte et il sera principalement élevé par sa mère. Ceci d'autant plus que ses parents divorcent quand il aura 16 ans. Donc sa mère est royaliste hein, et elle élèvera ses trois fils dans ce sens. Comme on vous l'a bassiné au collège et au lycée, bon, le mec qui pèse en poésie, quoi, c'est un peu le soprano du 19e siècle. Il rédige de nombreux poèmes dont certains brossent le roi en place dans le sens du poil. Tant et si bien que Louis XVIII lui envoie des thunes, puis se met carrément à lui verser une pension de 1000 francs en 1822. Voilà.
Ah ouais ?
Ouais. Alors, j'ai pas réussi à trouver, a priori, ces 1000 francs annuels. Et
ouais, mais plus, ça devait être beaucoup, 1000 francs annuels.
Bah, j'en parle un peu plus tard. Il va doubler le mec, il pèse tellement en poésie, il double la pension un an plus tard, 2000 francs. Voilà. J'ai trouvé un convertisseur sur le site de l'INSEE pour savoir combien d'argent.
Je pense que c'est 100 000 balles. Quand même.
Mais en fait, le problème, c'est que ça ne remonte pas avant 1901. Donc, pour info, si j'en crois ce site, là je cite vraiment tel quel. Hein. Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 1000 francs en 1901 est donc le même que celui de 389 964,59 euros en 2015.
Ouais, il se tapait un petit millier. Enfin, ouais, ok. Alors,
c'est en 1901 et en fait, tu peux choisir l'année.
Ok. On ira faire un tour, bien sûr.
Bref, le temps passe et il continue de lécher les bottes des rois successifs de France jusqu'à être nommé père de France en 1845 par Louis-Philippe Ier. Et bah, père de France, ça n'a pas trop d'équivalent aujourd'hui. Tu peux considérer ça comme une sorte de conseiller du roi.
Okay.
D'ailleurs, petite anecdote croustillante, Victor Hugo était ce qu'on qualifie en termes techniques d'un gros queutard.
Je voulais que tu en parles.
Ah oui, c'est...
Il est incroyable. Franchement, quand je suis allé visiter le musée Victor Hugo à Paris, c'est ses anciens appartements. Ils en parlent tout du long et ouais. C'est magnifique. Quoi.
Ouais, il avait sa femme, sa maîtresse officielle et puis moult. Puis
moult.
Et ben justement, vu qu'il était pair de France, il s'est fait gauler en fait avec une de ses maîtresses et à l'époque, bah, c'était.
C'était mal vu.
Illégal. C'était même illégal.
Ah, illégal.
Ouais. Et en fait, son statut de père lui conférait l'immunité. Donc ça lui a évité la prison, mais pas à sa maîtresse qui n'était pas père de France.
Sérieusement
ouais. Oh, c'était 2 mois, tu vois, mais quand même...
2 mois ouais. Et je suis sûr qu'il n'est jamais allé la voir.
Ça fait cher le coup de bite, effectivement.
Ouais.
3 ans plus tard, en 1848, Victor Hugo est élu maire du 8e arrondissement de Paris et député quelques mois plus tard. Et c'est vraiment entre 1848 et 1851 que Hugo va vriller, notamment après avoir été témoin de la répression contre les insurgés. Donc là, je cite son journal intime... C'était horrible, c'était comme voir Benalla dans une maternelle, une vraie boucherie. Bref, il a fait de nombreux discours et devient l'un des principaux opposants au régime, en fait. Il vrille, quoi, il passe de...
Voilà. Tu parles de la commune, les insurgés?
Ouais, je ne sais pas, c'est trop compliqué pour moi, probablement.
C'est la commune. En fait, c'est à partir de ce moment-là, quand... non, c'est pas entre du tout la commune. Je raconte n'importe quoi.
Il commence à faire plein de petites actions, enfin vraiment, il se radicalise.
Non, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Les insurgés, c'est contre Napoléon III, c'est pour ça qu'après...
Et bien justement, il devient un des principaux opposants à la personne de Louis Bonaparte.
Je dis n'importe quoi.
Jusqu'en 1851, où il prend carrément la tête de la résistance. Ce qui lui vaudra quand même 19 petites années d'exil. Voilà.
Bon, il s'est exilé où ?
Dans plein d'endroits, notamment Guernesey. Non, Jersey.
Jersey.
Mais il a fait Portugal, Bruxelles. Il a grave bougé. En 19 ans d'exil, il aura eu le temps d'écrire pas mal de bouquins, notamment Les Châtiments et Les Misérables. Mais je rappelle qu'à l'époque, évidemment, la PS4 n'était pas sortie. Donc voilà. Si ça se passait maintenant, le mec aurait juste le temps de faire à peine la saga Final Fantasy. Bon, je ne vais pas éterniser cette rubrique. Hugo revient en triomphe en 1870 après que finalement Napoléon III chute. Pas physiquement, quoi.
Non, mais il est renversé.
Voilà. Il sera élu à l'Assemblée en 1871 et devient sénateur en 1876. J'ai mis, comme d'habitude, de nombreuses sources en description. Et si vous êtes très, très friand d'histoire, j'ai un petit book, un petit e-book en anglais, tu sais, Google Book compile des photocopies des très vieux livres où vraiment c'est...
Ah oui, tu peux relire tous les Hugo.
Non, c'est une biographie très détaillée, hyper chiante en anglais. Enfin, vraiment, là, c'est...
C'est du pointu. C'est vraiment pour la crème de la crème de la crème.
Si vous faites de la compta tous les soirs, vous allez vous régaler. Voilà.
D'accord. Mais j'ai trouvé ça bien. C'était un peu rapide. Et c'est vrai que c'était un gros cutard, Hugo. Et ce que j'ai adoré quand j'ai visité son musée, franchement, allez tous le visiter. C'est un petit appartement.
C'est à Paris, c'est pas à Jersey, du coup ?
Non,
c'est un... Ah non, Jersey, c'est sa maison.
Ouais, il y a plusieurs. Mais là, c'est un petit appartement qu'il avait à Paris. Et ce qui est génial, c'est que t'es vraiment... Ils ont tout laissé en place, quoi. Et ce que j'adore, c'est que t'as une statue en plâtre, enfin un essai en plâtre, de Victor Hugo nu. Et d'accord. C'est pour moi un des moments les plus marrants de ma vie de voir ça, quoi.
D'accord.
C'est que le gars avec un ego tellement surdimensionné qu'il...
Il s'est fait autoplâtrer.
En fait, ça servait d'essai pour après une vraie statue, quoi.
D'accord.
Mais donc il y a ça. Tu te balades dans ce putain d'appartement où tu vois, tu lis des histoires comme quoi, sans aucun scrupule, il piquait les maîtresses de son fils et que son fils disait, bah oui, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le talent de mon père, donc forcément, elle se barre, quoi. Qui baisait toutes les actrices de Paris, qu'il était, c'était un mondain incroyable. Et à côté de ça, le mec, avec son ego surdimensionné, a une statue en plein... Enfin, je pense qu'elle n'était pas là au début, quoi, mais ils l'ont rajoutée dans le musée. Et c'est le Victor Hugo qu'on connaît, là. Avec vieille barbe blanche, les cheveux un peu en bataille. Cette bonne tête est encore tout maigre. À Walp, allongé, comme
il y a toute une rubrique sur sa barbe, si vous voulez, sur Wikipédia.
C'est vrai. Mais il était... Je le trouvais plus beau, jeune, moi. Je lui trouvais un truc...
Je n'ai pas vraiment d'avis.
C'était
tellement horrible. J'ai saigné des yeux, ouais.
C'est vrai ?
Je pense comme pour toi, pour Rudolf Steiner.
Non, moi, j'ai trouvé ça intéressant, Rudolf Steiner.
Bon, il est temps qu'on passe
à... J'ai trouvé ça dur parce que... En fait, au début, je me suis dit, ah, c'est un truc scientifique. Et après, quand je me suis rendu compte que c'était une arnaque intellectuelle, j'étais, le bâtard. Il me donne des trucs et après, il me donne des contre-trucs.
Non, mais c'était un peu vague, autant pour moi. Passons à notre rubrique la plus sérieuse.
Il y en a encore une.
Ouais.
Là, ça ne s'arrête jamais. Ah, on est désolé.
C'est vraiment.
Vas-y, envoie.
Vas-y, il me faut un jingle sérieux. Rubrique sérieuse business.
Voilà. C'est tout ? Attends, sérieux ? Il y a trois accords ? La pire... C'est affreux.
Bienvenue dans la rubrique Serious Business. Vous le savez, La Grange est une émission qui devient de plus en plus sérieuse.
C'est vrai.
Franchement, on n'est pas là pour rigoler.
Non.
Et la rubrique Serious Business est là pour vous le rappeler. Alors, aujourd'hui, on va faire l'analyse d'un texte, parce que franchement, quoi de plus chiant qu'une analyse de texte, hein ?
C'est là où on ramasse quand même le maximum de points, l'analyse.
C'est parti, ouais, c'est vrai. Ouvrez les guillemets. On a beau tout avoir, l'argent, l'amour, la gloire, il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul au point de départ. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer ? Peut-il aimer ? Jamais. Donc, pertinente question que pose ici Garou. Qui interroge l'éventuelle causalité ou au moins la corrélation entre l'absence totale de solitude et la capacité à aimer. Ce qu'il y a de brillant dans ce texte, hein, c'est qu'il le dit lui-même, on se retrouve tous seuls à des moments. Du coup, c'est con comme question, vu que... Voilà.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est triste aussi.
Son interrogation est complètement conne, voire pire, irréfutable. En fait. On peut ajouter qu'il fait astucieusement rimer lendemain avec demain, et aimer avec,
mais ça se voit pas.
Avec jamais.
Avec jamais.
On peut remercier. En fait, c'est pas Garou hein, qui est
le parolier.
Cette brillante musique. C'est monsieur Luc Plamondon, le parolier de cette chanson. Un parolier québécois qui avait déjà.
Très connu pour avoir fait.
La comédie musicale Notre-Dame de Paris. Tout à fait. Pour les plus. Je sais pas si je le mettrai en description, mais j'ai trouvé un texte brillant qui fait l'analogie de ce texte avec la vie réelle de Garou. Et sa liaison avec Laurie.
Avec Laurie, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Qui s'est terminée.
Ah, je ne savais pas.
Enfin,
mais,
je ne sais pas.
Mais c'est, voilà, c'est,
je ne sais pas, le cabinet médical où je vais ne met pas les magazines People en accès libre.
Eh bien, c'est bien de la merde, tu ne devrais plus y aller. Et tu devrais le critiquer sur Google. je voulais te poser la question, du coup, vu qu'on est dans la rubrique Serious Business. Hein? Pourquoi, pour toi, pardon, c'est quoi la pire musique de 2019?
Alors, attends, je l'ai noté. Je l'ai noté parce que tu as la gentillesse de me prévenir de cette question. Et c'est une chanson de Eus l'Enfoiré qui s'appelle La Grosse Moula.
D'accord, est-ce que tu peux défendre ton choix?
Oui,
honnêtement, je ne connais pas parce que j'écoute la radio.
C'est une chanson que j'écoutais en Martinique.
D'accord.
Et là où elle était horrible, en fait, c'est que je l'écoutais beaucoup trop de fois par jour. Dans le restaurant où je travaillais, avant de passer barman, il y avait déjà un barman. Et avant que je lui prenne sa place et qu'il s'en aille...
Il avait payé le CD.
Et c'est lui qui choisissait la musique. Et en fait, ce barman, c'était une folle, un peu méga obèse. Il était vraiment très rigolo comme personnage, mais d'accord. Sauf qu'il avait pris, il avait décidé que c'était sa nouvelle meilleure chanson. Et en fait, ça fait là, les méchants poursuivis par les méchants.
Les méchants poursuivis par
les méchants. Les méchants poursuivis par les méchants. Ça, c'est un peu le texte de base, quoi. Et lui, il avait remplacé ça par les cagoles. Poursuivi par les cagoles, et toute la journée il était là. Les cagoles, poursuivi par. Et...
D'accord, je pensais que c'était un peu du rap vu le nom du mec.
Mais c'est ça, c'est ça en fait. C'est du rap autotuné, un peu à la Jules.
D'accord.
C'est un truc vraiment dégueulasse, quoi. Mais ça reste bien en tête. Et en fait, le mec se donne un style gangster en chantant les méchants, poursuivi.
D'accord.
Et avec mon barman homosexuel.
Là, si vous voulez critiquer Eric, n'hésitez pas.
Non, mais allez-y. Hein. Mais avec mon barman homosexuel qui chantait ça, ça rendait ça encore plus fou, encore plus surréaliste. Et puis la parodie qu'il en avait fait avec Poursuivi par les cagoles, voilà, j'ai commencé à détester cette chanson.
Je trouve ça pas plus con que.
Mais vraiment, c'est très très.
Non, les cagoles, pas plus con que.
T'es en train de regarder les paroles là?
Non, je regarde la mienne parce que. parce que je trouve qu'elle est pire.
Non, franchement. Bah alors, on va chercher les paroles. Dis-moi, comment ça va? On s'est déjà vu là-bas. Tu te rappelles de moi? C'est moi, la grosse moula.
Effectivement.
J'étais déjà chez Bran avec ta copine Anita. C'est pas Yves Montand qui m'a fait monter. Bandit, calice, manie, valise, perquis, shérif. Pardon, shérif, fais tes valises.
Ah, il y a quand même des petites assonances.
Rotterdam, Venise, soit tu me suis ou on se revoit dans 10 piges. Tu connais. En étant détendu, tout ce que j'ai pas compté, je vais passer la répu dans le cul d'un poney. Au bigot, je ferais mieux d'en parler japonais. Et la grosse moula, poursuivie par les méchants. Les méchants, les méchants. Grosse moula, voiture noire, c'est les méchants. La grosse moula, cette vie-là, l'a pas chez Jean.
Ah, c'est pas si mal, je trouve. Hein.
Je me barre à la cité, j'en ai pas pour longtemps. Bébé, je t'aime et tout, mais j'ai besoin d'argent. J'ai v'là les sentiments, mais il y a déjà les méchants. Là, je prends la fuite, on se revoit dans 10 ans. Les méchants. Dans mon département, ça vesquille les méchants. Les petites chez moi, vissaient les clients. T'inquiète même pas, billets récents, de temps en temps, short de la queue banc.
Ah, c'est quand même pas si mal.
Les méchants, poursuivis par les méchants.
Ça, vous l'avez pas quand vous écoutez RTL2, hein. Il y a très peu d'analyse de texte.
Et c'est la grosse moula.
Attends, mais je vais te dire ma chanson la plus con de 2019.
Vas-y. Mais c'est sûr que c'est pas Laurie, quoi.
Je sais pas si je te le dis ou si je te donne juste le titre.
Non, tu devrais la lire comme j'ai fait.
D'accord. Et ou nanana, il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné, toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner, et.
C'est pas mal.
Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais. La vie, c'est musclé.
Qui a fait ça? C'est un type baraque de
du
ouf.
Du tout, c'est Soprano. C'est Soprano qui fait une chanson qui s'appelle Le Coach, qui est vraiment très 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 con.
Mais pareil, je trouve qu'il y a un fond là. Enfin, on est sur quelque chose, on est sur de la vraie vie, quoi. Les gars qui poussent à la salle, c'est C'est le quotidien de plein de gens qui vont à l'Orange Bleu.
Je sais pas, en fait, moi j'écoute pas la radio et à un moment je sais plus pourquoi j'avais débranché mon téléphone, donc le podcast s'est coupé dans ma voiture et je suis tombé sur ça en radio.
T'écoutes d'autres podcasts que nous ?
Plein, moult.
Ça me
Et je trouve vraiment c'est la chanson. Alors, comme je te dis, j'ai pas beaucoup d'auteurs références, mais pour moi, c'est vraiment la chanson la plus con de 2019. si t'as l'occasion de l'écouter, c'est.
Bah, on vous invite aussi à faire ça chez vous.
Ouais, d'ailleurs, mission. non, ça file des thunes à Soprano qui est vraiment là.
C'est pas grave. C'est
alors,
pas...
je sais pas si c'est comme Garou.
illégalement le.
Je sais pas si c'est comme Garou, je sais pas si c'est lui qui a écrit ses brillantes paroles. Mais
je crois, oui.
Ah ouais, il est quand même auteur-interprète, contrairement à Garou qui est même pas fou, est... capable de.
En même temps, il a raison, Garou. C'est juste avec sa bonne gueule, il peut vendre des chansons pédées. Des
chansons franchement, pédées, des chansons déjà, pétées. C'est un peu homophobe.
Je voulais dire des chansons pétées. Pourquoi j'ai dit des chansons pédées?
À mon avis, t'as pas une bonne gueule quand on te propose d'interpréter Quasimodo. Après, voilà, ça ne reste que mon avis. Bon, je pense qu'il est temps de conclure cette émission. Émission définitivement très
là,
sérieuse.
La bière est beaucoup trop forte. Hein.
On a été quand même très sérieux.
C'est vrai. Dites-le dans les commentaires. Hein. J'ai vu qu'il y avait des commentaires. On m'a montré ça.
Ah ouais, yes, ouais. Stylé. Vas-y, on termine sur les Bernardo Classicos de chez Classicos.
Ils en ont pas fait une autre ?
Si, non, mais honnêtement, ils sont moins bien les autres.
Les Bernardo, vous pouvez écrire et vous plaindre. Les gens ont fait des chansons gratuites, on pense que c'est de la merde.
Dis, voilà, écoute, ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi. Et si t'éprouves quelque chose pour moi, écoute, rendez-vous au Café de la Gare, 14h. Ciao.
C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé, qui travaille au champ, aux rayons surgelés. Il drague tout ce qui passe, raconte des trucs douteux. C'est un gros dégueulasse, il est vraiment fort. Il vit chez sa mémé, il s'habille chez Dama, avec son petit ciré, il est vraiment ringard. Il joue les Don Juan dans sa super Volvo, il est vraiment navrant, il n'écoute qu'à l'amour. Jean Neymar de ce détard, rien n'a fait. Exaspère.
Ah putain, qu'est-ce qu'on rigole.
J'ai rencontré Sophie à la foire au fromage. Elle est vraiment jolie. Je suis sur un nuage. J'ai vu son numéro par son meilleur copain. C'est un grand rigolo. Je crois qu'il m'aime bien. Paraît que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je l'aime au ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes folles de moi. Je suis irrésistible. Elles sont tout en émoi, je suis vraiment terrible. Je l'aurai, car je lui plais.
Jean, Lucas, si t'écoutes ça quand t'as 20 ans, on est désolé.
Suis sûr, elle va craquer.
Allô Sophie, tu as reçu mon message après 14h. Ah bah écoute, il est toujours pas trop tard, donc rendez-vous 19h au drugstore. Ciao.
Je suis vraiment coincée pour une fois que je sors à une super soirée au café le drugstore. C'est vraiment mal barré. Que vont dire les copains? Ce type a tout gâché. Il n'y a plus de rime. J'ai envie de le tuer à grand coup de chevrotine ou bien de les montrer.
Il fait que des nouvelles
signes. Mais c'est quand même bizarre, pour une fois qu'on m'invite, où c'est un coup de
Bernard. Il saute partout, et je sais que la situation, je trouve ça impressionnant. Voilà. T'avais pas une vanne ?
Non, mais non, c'est juste qu'on m'a reproché de beaucoup tacler les gens cons.
Bah en même temps.
Tu vois, j'ai envie de dire
qu'on se moque sinon.
Mais en plus, je me dis,
on va pas se moquer des gens moches, c'est pas
non, mais
leur
moi
faute.
J'ai dit, mais attendez, mais j'ai rien contre les gens cons quoi. Je veux dire, ma meilleure amie elle est anti-vax, donc encore plus con que con.
Nadine m'aura bien
si en plus t'avais vraiment une amie anti-vax,
non,
putain, ça serait oufissime. Non mais personne t'a reproché de tacler les cons. Non, c'est les seules personnes qu'on peut tacler sans vouloir quoi, t'sais.
Bah oui, parce que personne s'identifie. Il y a peu de gens qui revendiquent
le fait d'être con.
Ouais.
Non, moi je sais de temps en temps que je suis con.
Bah, mais... comme tout le monde, c'est une réalité complexe. Heureusement que l'anthroposophie me guide tous les jours vers la lumière céleste.
Je vais faire un trou dans ton jardin, j'ai une corne de vache.
Franchement, il y a déjà des trous et de la bouse. Enfin,
et de la bouse de hiérche.
Je suis à moitié anthroposophe.
On termine là-dessus.